Aucun problème pour se mettre à l'eau et la tête la première. Cet été, la température de la mer n'a jamais été aussi chaude sur tout le littoral français. Le bonheur pour les vacanciers sur la plage.
Ça fait du bien, même avec le petit garçon, on s'amuse bien, on en profite bien, donc c'est très très agréable.
Ça a été fabuleux parce qu'elle faisait 30 degrés.
Ah bah je suis rentrée tranquille. Hein. C'est plus agréable pour nous.
Voilà, ils étaient aux anges, les vacanciers à la plage en août dernier, quand la température de l'eau atteignait des records. Mais pas sûr, Héloïse, que la faune et la flore des océans soient aussi ravis.
Non Mathieu, c'est tout le contraire. Les épisodes de canicule marine sont un véritable drame pour les écosystèmes, d'autant plus qu'ils sont de plus en plus fréquents et intenses. Une étude parue cette semaine dans la revue Nature tire un bilan mondial sur ces événements climatiques extrêmes en milieu marin. On en parle tout de suite avec Philippe Curie, qui est avec nous en duplex depuis Bruxelles. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRD, président du comité scientifique de Monaco. Alors, est-ce que les événements climatiques majeurs en milieu marin, comme les canicules, c'est quelque chose de très étudié par les scientifiques, on en entend peu parler au final ?
Alors, toute la chaleur qui est reçue par le soleil est absorbée par les océans, et on le voit. Alors, les touristes sont contents parce que les océans se réchauffent, mais il y a deux choses dans ce réchauffement climatique. Il y a d'abord un changement lent. C'est vrai que les températures augmentent d'une année sur l'autre. C'est progressif. On le voit depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Mais ça s'accompagne aussi par, c'est l'objet, je dirais, de cet article, d'une chose qui était assez peu quantifiée. C'est tous ces événements extrêmes. Donc, ce qu'on appelle dans le milieu terrestre les canicules ou bien alors les pics de chaleur. Et donc, avec le changement climatique, ce qu'on observe, c'est que ces événements extrêmes se multiplient. Et il y a une courbe extrêmement significative qui est produite dans le papier qui montre que depuis 1900, hein, jusqu'à 2000, on avait à peu près une trentaine d'événements extrêmes dans toute cette méta-analyse qui a été faite. Et aujourd'hui, on en a plus de 100.
Et alors, juste pour préciser, une canicule marine, le mot a la même définition qu'une canicule terrestre, ce sont les mêmes critères ?
On les définit de façon statistique, c'est-à-dire vous prenez les séries, par exemple la série de température, vous regardez la distribution des températures au cours des derniers siècles, et puis vous regardez tout ce qui dépasse dans un écosystème donné, donc un milieu tropical ou un milieu arctique, et puis vous regardez les valeurs extrêmes. Donc voilà, alors par exemple un milieu corallien, vous regardez les températures moyennes de 25 degrés, ça va jusqu'à 28, et puis il y a des événements extrêmes à 32, 33 degrés, et vous quantifiez finalement la durée de ces événements et leur fréquence.
Alors dans quelle mesure justement la fréquence et l'intensité augmentent et depuis quand ?
Alors elle augmente de façon, ça on le voit sur les courbes qui sont produites depuis les années 2000. On a une montée avec le changement climatique, une montée qui est presque, je dirais, exponentielle de ces événements qui étaient autrefois rares et maintenant qui vont devenir une habitude. Hein. Donc on est dans un monde qui se transforme et qui voit de plus en plus ces événements extrêmes. Alors les résultats sur la faune et la flore sont, je dirais, éloquents. Alors, tout d'abord, il y a tous les animaux qui peuvent pas se déplacer, qui subissent ces événements extrêmes. Alors, si vous les subissez pendant un jour, deux jours, trois jours, les oiseaux marins, les herbiers, les posidonies, les laminaires, tous les animaux qui vivent dans le fond et qui ont des capacités de déplacement réduites vont arriver. Mais ce dont on perçoit, c'est que dans les périodes récentes, quand les événements, comme je vous le dis, ces événements sont fréquents sur une centaine de jours dans l'année, ça devient très très fréquent, et donc les animaux ne peuvent pas se déplacer et ils meurent, et donc ça on le voit sur la faune et la flore qui ont subi des conséquences, je dirais, dramatiques, avec par exemple le blanchiment des coraux ou encore les herbiers, tous les herbiers qui sont importants pour toute la dynamique de la biodiversité, qui meurent sur place.
Et les animaux qui fuient d'ailleurs, parce qu'ils sont nombreux, c'est pas forcément gagné pour eux non plus, ils vont tous au nord, et est-ce qu'eux, ils s'en sortent mieux ?
Ben, ce qu'il y a, c'est... Il y a bien sûr ceux qui ont une faculté à pouvoir se déplacer assez rapidement et de changer, ils essaient de persister dans le même habitat, c'est-à-dire avec des températures qui sont acceptables pour leur organisme. Ça fait l'objet de très très nombreuses publications en milieu marin, et la vitesse moyenne de déménagement des poissons, par exemple, a été quantifié, et c'est dans le rapport GIEC, c'est 72 km par décennie. Donc ce qu'on voit, on voit se déplacer, et notamment dans toute la zone intertropicale, toutes ces espèces de poissons qui peuvent plus supporter des températures plus élevées et qui se déplacent vers les pôles. Mmh. Alors ça, c'est pour les animaux qui arrivent, ils s'adapteront. Mais le problème, c'est par exemple le problème de l'accès, et notamment dans cette zone intertropicale. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Afrique. En Afrique, vous avez des ressources qui bientôt ne seront plus accessibles aux pays qui dépendent de ces ressources pour leur sécurité alimentaire.
Des conséquences sur l'activité humaine.
Exactement.
Allez, une dernière question, Héloïse.
Alors, concrètement, ce sont les pays africains qui vont souffrir en premier. Qu'est-ce qui va se produire pour eux dans un futur proche?
Ben, je vais juste vous raconter une série rapidement.
Très vite.
Voilà. Donc, par exemple, vous avez un événement extrême qui est El Niño dans le Pacifique. Cet événement-là, il a pour effet d'affecter grandement les anchois au Pérou. La Chine est très demandeur des anchois parce que tous ces anchois, ces millions de tonnes, c'est une des plus grosses pêcheries du monde, sont transformés en farine. Aujourd'hui, la Chine n'ayant plus, à cause de ces événements extrêmes, accès à cette ressource, se reporte sur les pays africains. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique de l'Ouest, vous avez 40 usines de farine de poisson qui sont construites en Mauritanie et au Sénégal, ce qui veut dire que les Sénégalais n'ont plus accès à cette protéine qui est tout à fait fondamental pour leur sécurité alimentaire. Donc ces événements extrêmes, vous voyez, dans le Pacifique, ont même des impacts économiques, sociaux, en Afrique de l'Ouest.
Merci beaucoup Philippe Curie, en tout cas pour ces précisions autour de cette publication parue dans Nature, Héloïse, hein, sur les canicules marines en ce moment. Merci beaucoup et à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'université de Jérusalem qui a dévoilé une page manquante dans les écrits d'Albert Einstein. L'université vient d'acquérir une centaine de pages manuscrites du physicien, dont une fameuse page qu'elle pensait perdue. Elle est issue d'un article présenté à l'Académie royale des sciences de Prusse en 1930 sur la théorie du champ unifié. Selon l'université, cet article fait partie des efforts déployés par Einstein pour unifier les forces de la nature en une seule théorie, effort auquel il a consacré les 30 dernières années de sa vie. L'université hébraïque dont Einstein fut l'un des pères fondateurs, détient le plus important fonds au monde de documents sur le scientifique. La très grande majorité des compléments alimentaires destinés à améliorer la performance de notre cerveau ou à prévenir le déclin cognitif se révèlent inutiles, voire dangereuses. Ce sont les conclusions du magazine 60 millions de consommateurs qui a passé ses produits au crible. La supplémentation en oméga 3, par exemple, n'est pas utile. Ces acides gras, certes indispensables au bon développement cérébral, peuvent être facilement apportés par une alimentation équilibrée. L'association de consommateurs pointe aussi du doigt les dangers du ginkgo biloba, une plante dont l'intérêt n'a jamais été démontré et qui peut interagir avec les traitements anticoagulants, ou encore ceux de la caféine qui empêchent le bon processus de mémorisation. Et puis les belugas de l'Arctique s'adaptent mieux au réchauffement climatique que les phoques, du moins d'un point de vue alimentaire. Et bien c'est ce que nous explique une étude publiée hier dans la revue Biology Letters. Ces animaux chassent sur le fond glaciaire, la zone justement où les glaciers rencontrent l'océan. L'offre alimentaire de leur habitat se trouve profondément modifiée justement par l'arrivée de nouvelles espèces de poissons, on en parlait il y a un instant, poussées vers le nord par le réchauffement climatique. Les belugas, qui sont des petits cétacés blancs, ont fait preuve de flexibilité, ont modifié leur régime. Mais les phoques, eux, sont restés fidèles à leurs habitudes alimentaires et passent plus de temps à chercher à manger, ce qui reflète, selon les chercheurs, une adaptabilité et une résistance limitée qui mettent en péril leur survie.